La réflexion dans laquelle je souhaite que nous engagions ensemble ce matin comportera, si vous voulez bien, deux parties. Une première partie, c'est une forme un peu de démonstration. Alors, je sens certains frémir, ceux qui ont eu quelques problèmes avec les mathématiques. Simplement, mon but est d'essayer de mettre en relief au travers de l'histoire biblique que nous allons balayer d'un trait, vous allez voir, de mettre en relief un dessein essentiel de Dieu pour son humanité, pour ses créatures. Ça va aller, merci. Une deuxième partie, donc je disais une première partie, dans laquelle mon but est d'essayer de mettre en relief un dessein essentiel de Dieu pour chacun de nous, et j'aimerais que nous puissions en prendre conscience, comme moi-même j'en ai pris conscience à la lecture de la parole de Dieu. Et une seconde partie pour voir comment ce dessein de Dieu peut prendre du sens dans l'Église elle-même. Et pour ça, je vais vous inviter, dans un premier temps, à un retour aux origines. Voilà. Ces premiers chapitres de la Genèse, vous savez, nous posent les fondements essentiels de notre foi, et ils ont une valeur d'abord et avant tout, avant d'être une valeur descriptive, ils ont une valeur didactique pour nous, pour cette humanité naissante. Quel est le but de Dieu pour cette humanité? Comment nous pouvons comprendre maintenant le dessein de Dieu en portant ce regard en arrière? Et on a dans l'Écriture deux récits de la création. Un premier récit dans le chapitre 1, un second dans le chapitre 2. Deux récits que certains ont pu comprendre comme contradictoires, comme témoignant du fait que la Genèse a été écrite par deux auteurs, mais vous allez voir, il n'y a rien de cela. Et je crois que ces deux récits sont parfaitement complémentaires et exposent vraiment un couple de desseins de Dieu à l'intention de l'humanité. On part d'un premier constat que Dieu fait au début du premier chapitre de la Genèse. La terre était informe et vide. À partir de là, Dieu va se définir un objectif et il va le réaliser. Arnaud a lu le texte tout à l'heure, une partie du texte de Genèse chapitre 1. Dieu va mettre en forme ce qui est informe et va remplir ce qui est vide. Et c'est toute l'œuvre de la création avec, à l'issue de cela, donc, comme point d'orgue de la création, l'homme et la femme, à qui Dieu confie un mandat. Et les théologiens appellent ce mandat le mandat créationnel. Dieu les envoie, en quelque sorte, dans cette création, avec pour but de multiplier, pour but de gérer cette création, pour but de la dominer raisonnablement. Et à la fin de ce premier récit de la Genèse, Dieu dit qu'il vit que tout cela était très bon. C'est le verdict qu'il pose sur toute cette œuvre du premier chapitre. On a ensuite un deuxième chapitre de la Genèse qui va redécrire à nouveau la création, mais sous un angle de vue un petit peu différent. Et malgré cette remarque de Dieu à la fin de ce premier récit qui dit que tout était très bon, Dieu redémarre par un constat de carence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça peut paraître étonnant de se dire que Dieu ayant tout créé, il revienne en arrière en disant « mais non, il y a un petit truc qu'il faut que je rectifie ». Et Dieu se donne là, dans ce deuxième récit de la création, un autre objectif qui est de donner à cet homme seul un vis-à-vis, la femme. Et de là découle ce que j'appellerai moi un mandat relationnel. Le deuxième chapitre de la Genèse est très orienté sur la relation et c'est le fondement, un peu ce triple fondement, ces trois piliers de l'institution du mariage, quitter, s'attacher, devenir une seule chair, c'est-à-dire en gros, et on voit ensuite le cours de l'histoire, fonder une famille et à partir de là, fonder des familles, fonder une société, fonder une humanité tout entière, des peuples, etc. Voilà ces deux récits. À ce point, je voudrais faire simplement trois remarques. Il y a un parallèle, vous le constatez, entre ces deux chapitres et ces deux récits qui sont comme là pour nous dire, voilà, il y a dans le cœur de Dieu deux desseins. Un dessein qui est de l'ordre de la création, de créer un univers, un deuxième dessein qui est de l'ordre de créer dans cet univers un ensemble de personnes, un ensemble plutôt communautaire, on passe de l'individu à la communauté, qui sera, dans cet univers créé, appelé à vivre un autre dessein de Dieu, qui est le dessein des relations. Il faut voir un peu plus loin que la femme dans cette création. Pardon. Il faut voir un petit peu plus loin que la femme en réponse à ce constat de carence que Dieu pose au début du chapitre 2. Parce que derrière la femme, vous le savez, il y aura l'engendrement de la famille, Caïn, Abel, et ensuite toute une descendance. Et il faut voir là donc la fondation de ce concept de famille. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, Dieu dit quelque chose d'intéressant, c'est que de la nature même de Dieu vient le concept de famille, de communauté, de société, de peuple qui s'en suivront. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est que ces deux mandats que Dieu confie à l'homme, à la femme placée dans cet univers créé, la réussite de ces deux mandats, dépend d'une condition qui est l'obéissance, la dépendance parfaite avec le Dieu créateur, c'est-à-dire une dimension verticale vers Dieu, d'obéissance, de dépendance, de reconnaissance pour tout ce Dieu qui a tout mis en place pour une parfaite harmonie, reconnaître que tout ordre vient de lui et dépend de lui. Et ensuite, une dimension horizontale, c'est vivre dans cette création, vivre au sein de cette communauté que Dieu est en train peu à peu d'élaborer. Voilà, je brosse ici à grandes lignes et très très vite un peu le dessein de Dieu au départ, le dessein primordial de Dieu. On passe au chapitre 3 de la Genèse, et vous savez ce qui arrive à ce moment-là, patatrac. C'est l'irruption du péché dans l'histoire humaine. Le rejet qui se manifeste, ce péché, par le rejet de cette condition de la réussite du mandat confié à l'homme et à la femme au sein de cet univers créé, la dépendance et l'obéissance à Dieu. Et le refus de cette dépendance et de cette obéissance à Dieu va avoir des conséquences. On va s'apercevoir que le mandat créationnel va être mis à mal. Et l'apôtre Paul va l'exprimer dans Romains au chapitre 8 en disant que la nature tout entière souffre maintenant de déséquilibre et de conséquences liées à l'irruption du péché dans le monde. Et on va avoir surtout la mise à mal du mandat relationnel, avec l'irruption au sein de la famille initiale, de l'accusation réciproque, de la rivalité, de la domination instaurée de l'un sur l'autre, de la perte d'équilibre dans cet ensemble tellement harmonieux que Dieu avait voulu initialement créer. Et puis ça va continuer. Il n'y a qu'à voir l'histoire de Caïn et Abel qui se poursuit dans la violence du meurtre par jalousie de Caïn. Est-ce que l'histoire s'arrêterait là ? Non. La fin du chapitre 3 de Genèse ouvre une perspective et Dieu dit qu'il y aura une rédemption à venir et qu'il faut attendre cette rédemption. Et ce chemin de la rédemption, que je vais brosser en deux, trois phrases là maintenant, est long sur plusieurs siècles. Et Dieu va peu à peu élaborer une stratégie de restauration de cette humanité qui s'est perdue dans sa désobéissance et son indépendance par rapport à Dieu et qui a perdu toutes les bénédictions qui étaient attachées à sa propre identité. Ça va être le choix d'un homme, Abraham, ça va être le choix de famille, la famille d'Isaac, de Jacob, le choix ensuite d'un peuple d'Israël. Et pour ceux qui lisent la Genèse en ce moment, je pense à ceux du groupe de formation, on se rend compte que dans toutes ces histoires, on s'aperçoit que la dimension relationnelle est absolument extraordinaire et d'une richesse extraordinaire, en bien mais surtout en mal malheureusement, en voyant l'illustration de comment le péché a faussé, a vrillé les relations entre la communauté humaine telle que Dieu les avait voulues. Et au sein du peuple d'Israël, pendant des siècles, ça va être le même exposé de difficultés à vivre ces relations communautaires. On fait un grand bond en avant, je vous ai dit que c'était un raccourci très rapide, et on en vient à la venue du Rédempteur, celui qui vient accomplir la promesse de Genèse au chapitre 3, le verset 15. Et sur l'homme Jésus, dont on a beaucoup parlé dans nos prières, dans le culte ce matin, ce Fils de Dieu incarné sur la terre, on va s'apercevoir là encore que son ministère se pose d'abord et avant tout en termes relationnels. Jésus va parler à tous. Il va parler à ceux à qui on parle d'habitude, les pharisiens, les notables, les religieux, etc., les instruits, mais il va parler surtout à ceux à qui on ne parle pas. Il va parler à des femmes prostituées, à des rejetées de la société. Jésus va se mêler, va côtoyer les impurs, à tel point qu'on lui en fera le reproche. Mais comment toi, il te dit le maître, le fils de Dieu, tu manges avec ces gens-là? Mais Jésus est venu pour restaurer une relation avec toutes ces personnes. Jésus va leur faire du bien. Jésus va faire ce bien sans aucune exception, sans exception de personne, en mettant de côté aucune personne humaine. Il va éprouver des émotions, il va les partager avec ceux qui sont en deuil, avec ceux qui se réjouissent aussi, avec ceux qui sont malades. Il va partager les pleurs, il va partager l'indignation de ceux qui sont révoltés contre le système social tel qu'il est. Jésus est venu pour un ministère qui est d'abord d'ordre relationnel, pour être aux côtés de ceux de son peuple, pour partager leur vie, pour partager leur peine, leur joie, leurs questions, leurs difficultés. Et lorsque, dans le cours de la vie de Jésus, on lui demande de résumer au plus court ce que la loi que Dieu a donnée à son peuple, qui était une loi donc destinée à gérer sa vie pendant tous ces siècles, la traversée du désert et ensuite le cheminement du peuple au sein de sa terre, la Palestine, je vous rappelle simplement, je fais un petit retour en arrière, que cette loi, en fait, pour à peu près le tiers, traite de questions relationnelles, le respect des personnes les unes envers les autres, comment on gère les relations, etc. Rappelez-vous les 10 commandements. Les 10 commandements, il y en a 4 premiers qui parlent de la relation verticale vers le Père. On revient un petit peu à ce qu'on a vu dans le récit de la Genèse, cette verticalité de relation et de dépendance et de soumission à Dieu. Les 4 premiers commandements en parlent. Les 6 autres parlent d'une dimension horizontale des relations avec les autres. Là encore, on est dans une loi qui est de type relationnel et il ne faut pas s'étonner si Jésus, quand on lui demande de résumer à sa plus stricte concision la loi que Dieu a donnée à son peuple, il dit « aimer Dieu et aimer son prochain ». Tout se résume à ça. Là encore, on est dans un cadre qui est très relationnel. Lorsque Jésus décide de fonder sa communauté, je viendrai à cette pensée après, de fonder cette communauté des disciples qui est une communauté un peu prototype de l'Église à venir, et ce sera notre dernière étape, l'Église, dans ce traversée là, ultra rapide. Quand Dieu fonde cette communauté, il fait des choix selon un casting complètement déroutant. Quand on pense, je ne veux pas rentrer dans le détail, on n'en a pas le temps, mais de mettre côte à côte un zélote qui était un résistant contre l'occupant romain et un péager qui était au contraire un collabo, quand on pense mettre côte à côte un pêcheur rustre de Galilée et quelqu'un d'autre de plus instruit de la loi, quand on pense mettre côte à côte des gens au caractère si différent que Jean, l'apôtre de la douceur et de l'amour, et Pierre, l'impétueux, qui l'ouvre tout le temps alors qu'il ne faudrait peut-être plutôt se taire et qui s'emballe dans des enthousiasmes irréfléchis. Quand on pense à ça, on se dit, mais Jésus, quel but il avait? De rater son entreprise? Quel chef d'entreprise constituerait une équipe de cette sorte? Personne. Mais Jésus avait le but de réussir précisément son entreprise, qui était d'amener ces gens si divers, si différents, à se côtoyer pendant 3 ans, à se frotter les uns aux autres, à entrer dans des rivalités, à entrer dans des disputes, à se mesurer dans leur dimension mutuelle, dans le but de les transformer dans leur dimension relationnelle. Et faire, en leur donnant ce mot d'ordre ultime, « aimez-vous les uns les autres », comme je vous ai aimé, ce mot d'ordre héritage, faire d'eux la communauté fondatrice de l'Église. Cette Église que Dieu a voulu former comme une communauté relationnelle au service et à la gloire de Dieu. Regardez cette Église lorsqu'elle est fondée à Jérusalem, cette première expérience que Dieu n'a pas permis de pérenniser ensuite parce qu'il voulait que tous ces chrétiens ne restent pas dans le cocon de Jérusalem et qu'ils se dispersent pour propager l'Évangile. Mais à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont vécu ces premiers chrétiens? Quelle a été leur première pensée? C'est de vivre des relations fortes, ensemble, dans une expérience de vie communautaire. Ils partageaient tous les jours leurs biens. Ils vivaient constamment ensemble. Ça ne pouvait pas durer, bien évidemment, dans cette façon pratique de le vivre. Mais Dieu mettait là en évidence et en œuvre un concept totalement nouveau, qui est celui de la communion fraternelle. Il nous est dit que les premiers disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Ils vivaient une dimension relationnelle nouvelle, celle que Dieu avait probablement toujours voulu que les hommes vivent, mais qui a été perdue à cause du péché. Ils la vivaient d'une façon encore imparfaite, de façon encore incomplète. Et ensuite, quand on considère toutes les épîtres que les apôtres, ce que le Seigneur a envoyé, tous ces auteurs qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour communiquer à cette Église le mode d'emploi de cette nouvelle communauté, on se rend compte que les épîtres sont complètement remplies, pleines de recommandations qui sont d'ordre relationnel. Et ce commandement, aimez-vous les uns les autres, Dieu, par la bouche de ceux qui ont écrit ces épîtres, va le décliner d'une façon pratique, avec des recommandations exhortatives. Soyez en paix les uns avec les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Soyez bons les uns avec les autres. Soyez bienveillants, etc. Et des recommandations beaucoup plus préventives. Ne dites pas du mal les uns des autres. Ne jugez pas, etc. J'ai préparé, parce que je ne pouvais pas l'insérer dans la durée de cette prédication, un petit papier qui vous sera distribué à la fin, que je vous invite à prendre. C'est simplement le recueil d'un certain nombre de versets de ces épîtres et du Nouveau Testament, où on voit décliner cette façon pratique de vivre l'amour, sur lequel l'apôtre Paul s'est exprimé en disant « l'amour est ceci, l'amour est passion, l'amour est cela ». Et toutes ces recommandations que l'on retrouve souvent en fin d'épître, lorsque l'apôtre, ayant achevé un exposé souvent théologique, en vient à des choses très pratiques et très concrètes, et il est souvent, la plupart du temps, l'auteur de ces épîtres sur le plan relationnel, encore une fois. Je pense que j'ai assez insisté sur cette intention relationnelle qui est au cœur véritablement du dessein de Dieu. Si le péché lui a apporté un coup presque fatal à ce dessein relationnel, Christ, lui, par son comportement sur cette terre, son amour pour ses disciples, pour son peuple, pour tous ceux qu'il a côtoyés, pour nous tous maintenant, l'a porté, cette intention relationnelle, à l'excellence. Et Christ l'a laissé en vocation essentielle à l'Église. Et donc ce matin, je me pose la question, si nous n'avons pas compris que l'Église est avant tout relationnelle, nous n'avons probablement pas compris ce qu'est l'Église. Si nous ne vivons pas l'Église dans sa véritable dimension relationnelle, nous ne vivons pas l'Église. J'aimerais que nous puissions nous examiner nous-mêmes devant cette intention divine. Dieu a voulu l'Église pour un but, pour que nous puissions vivre des relations, et non pas que nous puissions vivre une consommation simplement, des passages hâtifs où nous cueillons ce qui nous convient et nous repartons avec, mais Dieu veut que nous vivions des relations. Ce n'est pas un chemin de facilité. La communauté des 12 disciples n'a pas vécu la facilité dans ses relations pendant les 3 ans. Et encore, l'Écriture ne nous dit probablement pas tout. Des disputes, des discussions qu'il y a eu entre eux, elles nous laissent entrepercevoir simplement certaines d'entre elles. Des difficultés, des rivalités, des déceptions, etc. Et nous pouvons les vivre aussi au sein de l'Église. Ces mêmes déceptions par rapport à un idéal que nous aurions de relation, un idéal qui nous est parfois très très personnel et qui n'est pas forcément l'idéal de Dieu. Mais si nous n'avons pas compris et si nous n'entrons pas dans cette dimension relationnelle de l'Église pleinement, si nous ne la vivons pas concrètement, nous ne vivons pas complètement la dimension de l'Église qui est quand même le but essentiel que Christ a fixé. Ceux qu'il a sauvés, il les a réunis dans ce peuple. Il aurait pu nous laisser individuellement épars, vivant notre vie spirituelle dans une certaine perfection. Nous n'aurions personne avec qui nous disputer, avec qui avoir des ennuis. Non, Dieu a choisi, Jésus-Christ a choisi de nous réunir pour que nous vivions quelque chose, pas forcément facile, une forme de challenge, un apprentissage de relations nouvelles au travers desquelles Dieu nous transforme véritablement. Dans ma deuxième partie, je voudrais simplement évoquer 3 histoires de solitude et d'une rencontre. Ce n'est pas un titre de film, ça peut y ressembler. La première, c'est celle du prophète Élie. Je vais vous la résumer en 2-3 mots pour ceux qui ne seraient pas trop familiers de l'Écriture. C'est dans 1 Roi au chapitre 18 qu'on la lit. C'est un prophète de l'Éternel. Il a un message à annoncer à son peuple. Il est malmené. Il est rejeté. Il a le sentiment que son ministère est totalement inefficace. Résultat, il décide de se replier dans une caverne, seul, de s'isoler, de se couper de tout et de rentrer dans une forme d'amertume, de dépression, de désespérance, de boudé. Là, Dieu vient et le rencontre. Dieu commence par le consoler, par lui faire du bien, et ensuite, il l'interpelle. Et il lui dit, « Que fais-tu là, Élie ? Pose-toi des questions sur le but de ta vie, sur le lieu où tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Tu es en train de consacrer ton temps à ce à quoi Dieu veut que tu le consacres, c'est-à-dire à poursuivre ton ministère au sein de ton peuple. Que fais-tu là, inutile et seul ? Alors, et Dieu lui ouvre les yeux, lui fait une révélation, qu'il y a, toi qui t'estimes seul, désespéré, sans avenir, il y a 7000 hommes parmi ton peuple qui sont fidèles à Dieu. Et en quelque sorte, avec un message sous-entendu, cherche-les et va vers eux. Et trouve auprès d'eux ta consolation, ton encouragement. Il y a des solitudes qui sont délibérées, des facteurs divers, des solitudes qui sont choisies véritablement par orgueil, par fierté, par autosuffisance, par timidité, par indifférence aux autres, par peur de rencontrer l'autre, par peur de faire un chemin vers l'autre, parce que cela coûte, par peur de livrer un peu de soi, par une pudeur ou une discrétion excessive. Il y a des solitudes délibérées, peut-être par ignorance simplement, de cette fonction première de l'Église que j'ai rappelée avec insistance, qui est celle de la communion fraternelle, des relations au sein de l'Église, peut-être par ignorance des circuits de recours à la communion fraternelle au sein de l'Église, et dans une période de découragement, ne pas savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont doués d'un don pastoral, capables d'écouter, de comprendre, de compatir, de passer du temps, de prier avec, qu'il y a des anciens et des diacres dans l'Église, qu'en plus, dans notre Église, nous avons dédié un temps particulier à cela, qui s'appelle la permanence pastorale, une fois chaque semaine, qu'il y a des personnes pour s'occuper préférentiellement de cela, mais qu'il y a surtout, à nos côtés, de chacun, sur notre banc, un frère et une sœur à qui on peut faire confiance, ou lui demander, lui réclamer cette confiance pour recevoir une confidence, un sujet de prière, et qu'il porte avec nous ce fardeau. L'ignorance, donc, aussi. Il y a aussi des solitudes délibérées par repli sur soi. J'ai tellement été déçu de mes amitiés précédentes que maintenant, j'ai coupé tous les ponts par découragement, par dépression, parce qu'on n'a plus la force d'aller vers les autres. Il y a des solitudes par appauvrissement spirituel aussi, ou par paresse spirituelle, parce que on a peu à peu négligé de se joindre à nos frères et sœurs dans la joie de la communion fraternelle, partagée autour de la parole de Dieu, dans des rencontres de divers types, groupes de quartier, etc. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux était judicieux en disant « N'abandonnez pas votre assemblée » et en disant que nos assemblées étaient un lieu où nous veillons en quelque sorte les uns sur les autres. Donc une forme parfois de paresse à rejoindre la communauté, la négligence du rassemblement fraternel, des départs de fin de culte qui sont précipités comme des sortes de fuites pour éviter d'avoir à adresser la parole aux autres. Tout cela, et puis on peut en imaginer plein d'autres facteurs. Mais le résultat est toujours le même. Et le résultat, je trouve qu'il est souvent terrible, le résultat. C'est la condition de celui qui reste seul dans son épreuve, de celui qui reste seul dans la maladie, dans des épreuves psychologiques, morales, spirituelles, dans des épreuves familiales, et qui reste désespérément seul. Et j'ai parfois, lorsqu'on se rencontre d'un coup d'une telle situation dans l'Église, j'ai souvent une question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait appel ? Pourquoi tu ne t'es pas livré, tu ne t'es pas ouvert un minimum simplement à une personne, pas à toute la communauté, mais pour qu'on puisse prier avec toi, qu'on puisse te soutenir ? Et franchement, ça m'interroge et ça fait surgir de ma bouche, maintenant que je suis ici à apporter cette prédication, un appel, mais ne restez pas seul si vous êtes dans l'Église, dans ces situations-là. N'en faites pas le choix de cette solitude délibérée qui vous coupe, qui vous isole et qui vous fragilise. Le Seigneur a voulu l'Église comme une communauté de soutien mutuel. Je vais y revenir ici encore. La deuxième histoire, c'est celle dite du bon samaritain. Je la résume en quelques mots. Vous avez les références ici, elles circuleront avec le PowerPoint pour la prédication. C'est un voyageur qui est violemment agressé sur une route risquée de la Palestine, une route dangereuse, peu fréquentée, et il reste à terre. Passe alors un prêtre qui ne détourne même pas le regard. Passe un autre religieux qui a la même attitude, pas un regard, qui ne s'arrête pas. Arrive ensuite un étranger assez mal considéré dans le pays. Lui s'arrête. Il console cette personne. Il prend soin d'elle, soigne ses blessures, prépare un avenir de restauration. Et Jésus, en racontant cette parabole, répondait à une question de quelqu'un qui s'interrogeait fort mal à propos. Qui est mon prochain ? Comme si Dieu, depuis ce dessein que j'ai exposé tout à l'heure, depuis la création jusqu'à la fin de l'histoire, n'avait pas manifesté clairement que son dessein est un dessein relationnel. Mais qui est mon prochain ? Et Jésus, on a l'impression qu'il lui répond, « Écoute, espèce d'âne, mais c'est le premier que tu rencontres sur ton chemin. » C'est celui dont la situation, la solitude, est un véritable cri d'appel à toi. C'est une autre type de solitude. La solitude subie, elle est plus terrible encore que la précédente. c'est être ignoré. Celle que l'on peut connaître dans différents endroits. On peut la connaître dans un couple, on peut la connaître dans une famille, on peut la connaître dans une communauté scolaire, universitaire, communauté de travail, dans la communauté sociale, de n'être jamais regardé, jamais aimé, jamais salué, jamais considéré comme un individu, jamais considéré pour son avis, son opinion, ses paroles. Et c'est terrible que cette condition, mais elle est encore plus terrible quand c'est dans une église. Et cette question que Dieu posait à Caïn, j'ai déjà fait allusion à cette histoire, dans Genèse au chapitre 4, si je ne me trompe pas, où est ton frère ? Dieu nous la pose. Vous vous souvenez de la réponse de Caïn ? Suis-je le gardien de mon frère ? La réponse à cette objection que Dieu n'a même pas eu la peine de prononcer, mais bien sûr que tu es le gardien de ton frère. Mais c'est le sens même de la communauté humaine que j'ai créée. Tu n'es pas son gardien pour lui fixer des bornes et des limites, mais pour veiller sur son bien-être, pour veiller sur sa santé dans tous les domaines, psychologique, moral, etc. Et au sein de l'Église, cette même question, elle retentit. Elle est terrible, notre responsabilité, lorsque nous manquons à cette responsabilité. Parce que nous sommes membres d'une communauté dont la devise a été fixée par Jésus-Christ lui-même et qui, lui, l'a mise en œuvre, cette devise. C'est l'amour. Si je suis membre d'une telle communauté d'amour, comment est-ce que je peux ne pas me préoccuper de mon prochain, ne pas l'accueillir, le saluer, lui adresser quelques paroles de bienvenue pour lui signifier simplement au moins je t'ai vu, tu existes, tu es là, je t'ai pris en compte. Comment est-ce qu'on peut ne pas souffrir quand lui-même souffre, partager ses sentiments? Comment est-ce que je peux ne pas prier quand il fait appel à ma prière, quand il est dans l'affliction, ne pas le visiter quand il est malade, ne pas communiquer avec lui, et Dieu sait que plus nos moyens de communication se sont développés, moins nous savons en user dans un cadre d'amour vrai, authentique et profond. Comment est-ce que je peux ne pas l'encourager, le consoler quand il en a besoin? Comment est-ce que je peux ne pas lui ouvrir ma maison pour partager un simple moment d'amitié, de partage, de considération? C'est toutes des questions que nous pouvons nous poser. Et je me les pose à moi en premier, bien entendu. Jésus a décliné cette notion de fraternité dans Matthieu au chapitre 25, lorsque, dans les versets 35 à 40, il a posé les éléments essentiels, je pense que j'ai le temps de les lire, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Jésus a dit quelque chose d'étrange à ses disciples. Il a dit: j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Le basique de la fraternité. Les justes lui répondront: mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, avoir soif, t'avons-nous donné à boire, etc. Et s'énumère, mais quand? Et le roi leur répondra, parce que c'est le moment où chacun recevra aussi selon ses œuvres en termes de récompense, de bénédiction, le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, on est bien dans le cadre de la fraternité, c'est à moi que vous les avez faites. Et la fraternité, elle se définit comme ceci: par rapport à ce que Christ lui-même a fait et par rapport à ce que nous ferions pour Christ, compte tenu de tout ce qu'il a donné pour nous. Mais ça, nous le ferions à ce plus petit de nos frères. C'est ça la réalité de l'Église. La troisième histoire, c'est la deuxième, c'est la même. Parce qu'il y a une autre solitude dans cette histoire. C'est la solitude du prêtre et du lévite qui passent à côté du blessé de la route et qui ne s'arrêtent pas. C'est la solitude qui n'est pas éprouvée, qui ne fait peut-être pas souffrir, mais qui est terrible celle-là aussi, de celui qui a rendu son cœur aveugle, qui a rendu son cœur dur, qui a rendu ses mains inopérantes, qui a rendu ses oreilles sourdes à la souffrance et aux besoins de l'autre. Et c'est une autre solitude. L'Écriture nous dit que il y a une bénédiction particulière de grâce, de récompense auprès de Dieu, de bonheur, tout simplement, à donner aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est une solitude que de se priver de cette bénédiction de pouvoir apporter de la communion et de l'affection aux autres. Les raisons que nous invoquons, elles sont multiples. Pas le temps, j'ai peur, j'ai jamais fait, ça va me coûter. Peur d'être trop jeune. Je peux me permettre un petit message à l'attention des jeunes, plus spécifiquement. Jeunes, si vous n'apprenez pas ça maintenant, que vous êtes jeunes, vous aurez peut-être beaucoup de mal à l'apprendre plus tard. Et vous êtes le devenir de l'Église. Vous ne pouvez pas savoir, et souvent, cela on m'en a témoigné, le plaisir que peut avoir une personne plus âgée, j'ose pas dire du troisième âge, voire peut-être quatrième pour certaines parmi nous, que de voir un jeune venir à la fin du culte délibérément vers elle et la saluer simplement et lui faire la bise et lui dire deux mots, comment ça va ? Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Et vous vous privez vous-même en même temps d'une bénédiction que de ne pas entrer en relation avec ces personnes. Les jeunes ont pris de très belles initiatives que de visiter des personnes âgées. Et moi, ce que je retiens de ça, alors d'une oreille, j'ai l'écho de ces personnes âgées qui se disent bénies d'avoir reçu ces jeunes, mais surtout et encore bien plus fort, l'écho de ces quelques jeunes qui ont fait cet effort de mettre du temps à part, que d'avoir été tellement bénis d'être allés apporter un petit peu de joie et de plaisir à ces personnes. C'est ça la dimension relationnelle de l'Église. Et je vous y invite vraiment à y entrer, à ne pas vous dire « Ah, mais je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas le temps, je ne peux pas », et à ne pas rester enfermé dans vos bulles, qui sont tout à fait légitimes, d'amitié préférentielle. Mais rappelons-nous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans ce domaine, en particulier dans ce domaine relationnel. De quelle catégorie relevons-nous ? De ceux qui sont dans un isolement choisi, qui est destructeur peu à peu, de ceux qui subissent cette solitude dans l'indifférence, le silence, combien j'aimerais tellement qu'il n'y en ait plus aucun, ou de ceux qui s'enferment dans eux-mêmes, dans cette indifférence vis-à-vis des autres et se privent de donner. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, disait Jésus au fondement de la communauté humaine. Et s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vraiment mon souhait, je voudrais terminer là-dessus, dans ma prédication, que l'Église n'en soit pas le théâtre et que je n'en sois pas un acteur. Que le Seigneur puisse, à l'exemple de Christ qui nous a aimés pleinement, nous voulions que l'Église soit cet espace de communication, de relation, où chacun donne et reçoit pleinement cet amour que le Seigneur nous a légué en héritage. Amen.